29 heures durant, quasiment ininterrompues, nous avons livré bataille, pied à pied, dans des conditions difficiles, face à un adversaire tenace, intransigeant, mais tout de même suffisamment ébranlé par la grève générale pour que nous ayons pu lui imposer des concessions. Vous devez bien comprendre, camarades, que dans ces circonstances, il n'a pas été aussi facile qu'en 1936, par exemple, qu'évoquait Benoît Frachon tout à l'heure, d'aboutir au résultat aussi satisfaisant que les travailleurs sont en droit d'attendre par rapport à la puissance de leur mouvement. Mais nous étions six syndicats différents face à un seul bloc patronal et gouvernemental. Les choses auraient été différemment si au lieu du bloc patronal et gouvernemental, il y avait eu en face de nous un gouvernement de gauche et face au patron une seule organisation syndicale. Ce qui n'a pas été possible aujourd'hui le deviendra demain pour si peu qu'on s'en occupe. Pour le secteur privé, les salaires sont augmentés d'une façon globale, générale, de 7% en juin, de 3% en octobre, sans préjudice des accords contractuels par entreprise ou industrie. Nous avons lutté pour obtenir le paiement des jours de grève. C'est une expression que les patrons n'aiment pas. Ils préfèrent l'appeler autrement. Au terme d'une longue discussion, le Conseil national du patronat français a accepté de payer 50% des salaires pendant la durée de la grève avec une modalité de récupération selon les cas. Selon les cas, écoutez. Avec une modalité de récupération selon les cas, et d'après ce qui vient de se passer, ça ne sera pas le cas de chez Renault. Ne nous méprenons pas, camarades. Rien n'est signé. Quand le gouvernement...
28 mai.
Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. Qui formera le gouvernement provisoire? S'il le faut, j'assumerai cette responsabilité. Mais il en est d'autres qui peuvent y prétendre au même titre. Et je pense d'abord à M. Pierre Mendès-France. Et qui sera président de la République? Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais, d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, je suis candidat.
29 mai.
Depuis trois semaines, l'inaction, l'incertitude et les illusions ont conduit la France d'une révolte étudiante que d'autres pays ont traversée à une secousse sociale et aujourd'hui à la remise en question des institutions politiques du pays. Chaque jour passé, chaque jour perdu, ont aggravé la profondeur et les conséquences de la crise. L'opinion publique est passée de la stupéfaction à l'angoisse. Cette angoisse étreint aujourd'hui chaque Française et chaque Français. Dans ce moment où tout craque, même la fidélité élémentaire, je souhaite pour ma part que le président de la République continue à assumer ses fonctions et à représenter la légalité que le peuple français lui a librement confiée par son vote. Le gouvernement qui, malgré un sursis, n'a réussi ni à rétablir l'autorité de l'État, ni à remettre la France au travail, doit partir de lui-même, selon la règle démocratique. Son maintien prolongé, qui ne répond plus à aucune nécessité d'intérêt national, fait déboucher la crise sociale sur la crise de régime. La France veut passer en quelques jours du 19e siècle au 21e siècle. Pour un pays jadis porteur d'espoir et de messages, c'est l'expression d'une volonté de vivre. Qui donc n'entend, au travers de ces craquements, le rêve, oui, le rêve instinctif, généreux et passionné, d'une jeunesse qui appelle à une société plus fraternelle. Face à cette poussée, l'inaction ou la raideur risquent d'un instant à l'autre de provoquer l'explosion.
30 mai.
Françaises, Français. Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler.
Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, De Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration. Monsieur Van Roo pense comme moi, et Maurice Schumann aussi. De Gaulle est seul, vous le voyez.
Le 12 juin, à la Mutualité.
Je vais vous lire le témoignage de ce prêtre qui était sur place au moment de la noyade de Gilles Totin. Il dit « À 15h40, j'étais en vélo moteur sur la route longeant la place Juillet à Melun. Il s'agit du vicaire de Saint-Germain de Charonne. Il se trouvait donc en moteur sur la route longeant la place Juillet à Melun. Une douzaine de jeunes gens étaient assis en rond sur l'herbe sous les arbres au bord du bras Saint-Côme. Une voiture de gendarmes s'est arrêtée le long du mur, ne pouvant être vue du groupe. Ils sortent du car, prennent leur fusil à la main, crossent en avant et ils chargent au pas de course vers les jeunes gens. Ceux-ci se sont levés et ont commencé à courir le long de la Seine. Ils n'avaient d'ailleurs pas d'autre possibilité que cette direction pour s'enfuir. D'autres témoignages nous ont permis d'établir que les forces de l'ordre, il s'agit de gendarmes cette fois, de gendarmes locaux, sont arrivés également par le deuxième bras et empêchaient les jeunes gens d'aller dans toute autre direction que vers la pointe de l'île. Ils n'avaient pas d'autre possibilité que cette direction pour s'enfuir. Et là, le témoin précise, moi-même, je suis aussitôt parti en mobylette par la route pour essayer de les rejoindre route, 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 pour essayer de les rejoindre plus loin et d'en soustraire au moins un au matraquage auquel j'avais assisté depuis le matin au Mureau. Il faut préciser que les ratonnades, puisque c'est ainsi qu'il faut les appeler, se sont systématiquement déroulées depuis le matin au Mureau. Donc il est parti pour essayer d'en recueillir un. Et il dit, j'ai été surpris d'arriver sur un pont, car de la route où j'étais, on ne se rendait pas compte que les jeunes gens étaient sur une île et qu'il y avait un autre bras de Seine. Peut-être ignorait-il aussi qu'ils se heurteraient à la Seine dans cette direction. Je n'ai pas vu comment les jeunes gens étaient rentrés dans l'eau, puisque je suis partie dès que la charge a commencé. Mais j'ai entendu dire ensuite par d'autres témoins que les gendarmes ont refait chemin, ceux des jeunes gens. Il est maintenant établi par d'autres témoignages qu'on les a obligés à sauter à l'eau, que cet endroit n'était pas un endroit particulièrement dangereux où ils risquaient de se noyer en tombant à l'eau, mais qu'on a poussé et matraqué ceux d'entre eux qui n'y avaient pas sauté assez vite, et en particulier Gilles Totin, dont il est établi qu'il était un des derniers à avoir voulu aller à l'eau parce qu'il était en possession d'un appareil de photo qu'il ne voulait absolument pas faire tomber à l'eau. Il est donc resté sur la berge et on l'a obligé, on peut deviner aisément comment, à rentrer dans l'eau. Quand je suis arrivée sur le pont, j'ai vu un policier qui a sorti sous mes yeux son pistolet et qui s'est penché sur l'eau en criant deux fois « Arrêtez ou je tire !» Ceci était crié aux nageurs. J'ai arrêté une voiture qui passait, une voiture claire avec un couple. Je leur ai crié ce qui se passait et j'ai interpellé le policier qui aussitôt a rentré son pistolet en disant « C'était juste pour leur faire peur, il n'y avait pas de balles dedans. » Il était embêté et cherchait à s'excuser. J'ai regardé dans la Seine et j'ai vu à cet instant précis deux garçons coulés. Deux, je dis bien deux, et plusieurs témoins l'ont précisé. De nombreuses personnes descendues alors de voiture sur le pont l'ont vu avec moi et ont crié « Il coule, il coule !» Il était environ 15h45. Je suis aussitôt descendue sur la berge, dans le square où plusieurs sortaient de l'eau. J'en ai emmené un, malgré l'opposition des gendarmes, mais avec l'appui des personnes présentes. Les premiers mots de ce garçon en abordant ont été « Vite, il y en a un qui coule !» Un gendarme a ri, ils ont voulu m'empêcher d'emmener ce garçon, mais ils ont dû me laisser le faire à cause des autres personnes présentes. J'ai emmené le garçon, on a su depuis qui était ce garçon, c'est un de ceux qui n'a pas été ensuite entre les mains de la police. Sur la route, je l'ai emmené sur la route vers la ville et je l'ai laissé à un ouvrier qui l'a emmené chez lui, après que plusieurs magasins, il cite lesquels, aient refusé de le recevoir. Je suis retournée chercher un deuxième garçon, un grand à lunettes que j'ai emmené au même endroit que le premier. Puis je suis revenue une troisième fois. À ce moment-là, un homme grenouille sortait juste un des deux jeunes gens qui avaient coulé. J'ai aidé avec quatre ou cinq autres personnes présentes à le retirer hors de l'eau, car il ne pouvait pas remonter sur la berge à cause de la vase. Et nous avons fait la chaîne, j'étais le dernier de cette chaîne. Aussitôt sorti de l'eau, on a tenté de réanimer Gilles. Et là, il précise qu'il a vu du sang, de nombreux autres témoins le précisent aussi. La réanimation a été effectuée avec beaucoup d'empressement par des civils, policiers, pompiers et un médecin arrivé à la fin. Mais vers 16h35, vous vous rendez compte du délai qui s'est passé entre le temps où il a coulé et celui où on l'a réanimé, le pouls ne répondait plus. Les efforts de réanimation ont cessé. Dès que les gens présents ont su que le jeune homme était mort, la population s'est montrée hostile aux policiers qui ont voulu s'en aller. L'un d'eux, qui s'était installé seul dans un camion, les autres étaient dehors, a été formellement reconnu par les témoins pour avoir poussé un jeune homme dans le dos pour le jeter à l'eau, ou du moins pour l'empêcher de remonter sur la berge. Ce gendarme n'a pas nié. Il a seulement dit « Pourquoi moi ?» avec l'air de dire « Je n'étais pas le seul, pourquoi s'en prendre seulement à moi ?»
Essai d'information en direct par téléphone sur la scène de Pacra.
Allô, allô monsieur, je ne sais pas si votre... Bonjour monsieur, je ne sais pas si votre femme vous a dit de quoi il s'agissait. Oui, ben voilà, nous sommes des journalistes qui faisons du journalisme en direct dans la salle de Pacra, puisque nous sommes en grève, et le reporter qui devait aller... Pacra, c'est une salle de spectacle, vous savez que les journalistes de l'ORTF sont en grève, et que nous faisons de l'information, puisque nous pouvons plus faire à la radio, nous la faisons directement au public, comme ça. Alors, le journaliste qui était ce matin a été intercepté sur la route et n'a pas pu se rendre au bureau. Alors, on en est forcé à lire la presse. J'aurais bien aimé avoir un témoignage sur quelqu'un qui a vu quelque chose et qui, si vous avez vu quelque chose, et qui puisse nous en parler.
Un incendie à la Sorbonne.
Il y a des petits-enfants à la garderie, à peu près en tout 300 enfants. Hein ? C'est un geste criminel de faire... Cet enculé, je parle maintenant comme ça, l'enculé, c'est un catangué qui vous parle. Hein ? C'est un geste criminel parce que si encore ça serait un adulte, on ne ferait pas ça. Hein ? C'est pas vrai. Et je vais te dire une chose. S'il y a une révolution, les CRS et tout, ils sont tous perdus. Parce qu'on est équipés aussi, nous. Comme eux.
Le général des pompiers, Cassot, des étudiants et Nicole de Haute-Cloque.
Ma mission est une mission d'altruisme, d'efficacité et de discrétion. Je rends service à tout le monde, qu'il soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, étudiant ou manuel, français ou étranger. Dès qu'on m'appelle, j'arrive. Je ne lui demande ni sa philosophie ni sa confession. S'il a besoin de moi, je l'aide. Et je le sors d'embarras. Voilà.
C'est
la mission que j'ai sur la population des quatre départements de Paris. Le service de secours et d'incendie à Paris est assuré depuis Napoléon Ier par une unité militaire.
Voilà. Et vous couvrez...
Qui ne se pose pas de problème.
Vous couvrez donc Paris et la région parisienne.
Les quatre départements de Paris.
Quatre départements de Paris. Ça nous fait une lourde responsabilité.
Ben oui, on a fait 43 000 sorties l'an dernier et cette année, du train où ça va, on en fera 50 ou 55 000. Dans la nuit où vous avez fait votre Balthazar, on s'est tapé, nous, 481 sorties, on a éteint 900 feux.
481
sorties en 24 heures et on s'est tapé 900 feux. Et des feux qui n'avaient l'air de rien, mais qui pouvaient être dangereux. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut filer dans une cage d'escalier, puis vous retrouvez un feu au sixième, et vous perdez une famille avec des gosses. Alors, de grâce, ne jouez pas avec le feu. Occupez-vous des filles et de la bière fraîche dans les bistrots.
Ah, voilà. Beaucoup plus simple.
On fera ça après la révolution.
Général, est-ce que vous avez un tuyau sur l'incendie, qui a, sur l'origine de l'incendie?
Non, 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 absolument pas. Non.
Il paraît qu'il y a pris en 5 endroits différents.
Quand nous sommes arrivés, il y avait un comble sur les rampes en bois qui brûlait.
Ah oui, parce que c'est les étudiants qui m'avaient dit que ça avait pris à 5 endroits différents.
Je disais à l'instant qu'il y a beaucoup de bruit qui court dans les rues de Paris et qu'il fallait être un peu prudent.
Oui, c'est eux-mêmes qui viennent me le dire devant la Sorbonne. Alors, 5 endroits différents, ça me paraissait tout de même une nette volonté de mal faire.
Je pense que s'il avait mis le feu, si quelqu'un avait mis le feu en 5 endroits, il n'aurait pas mis ça dans le même comble. Il aurait dispersé un peu ses foyers.
Évidemment, l'idée est de faire disparaître les archives, mais enfin...
Oh, ce sont les vieilles archives, je crois, de l'Académie et du rectorat. Je ne pense pas que ce soit des choses.
Il faudrait vraiment que les étudiants de la Sorbonne comprennent qu'il y en a parmi eux qui leur font énormément de tort. C'est bien dommage parce que.
Madame, je le disais à l'instant qu'ils sont atteints d'une maladie.
Leur mouvement pourrait être très intéressant très si hélas, il n'y avait pas tant d'abus. Mais quand on voit l'état actuel du 5e arrondissement, on ne peut que regretter qu'il y ait tellement de saccageurs.
Ah, je leur dis, ils ont 20 ans. Ils guériront de cette maladie. Est-ce que je peux leur dire sans aucune chance de me tromper, c'est qu'ils connaîtront et aussi l'âge mûr, et peut-être plus vite qu'ils ne le pensent.
Hein? C'est une très bonne chose d'avoir 20 ans seulement. Il vaut mieux en faire de belles choses que de vilaines.
Quelles sont les belles choses?
Les belles choses, c'est pas celles de la Mao, certainement pas, hein, monsieur. Parce que j'ai été à l'école aussi.
Les jeunes manifestants distribuent des fleurs d'ailleurs aux forces de police qui actuellement font mouvement vers la place de la Sorbonne. Je vois une jeune fille qui se dirige vers un quart de police pour. Et les policiers qui accrochent d'ailleurs les fleurs aux fenêtres des cars. Pour l'instant, pas de tension, mais je viens d'apprendre que le comité d'occupation de la Sorbonne refusait de laisser la Sorbonne aux mains des policiers.
Le 11 juin.
Les grenades pleuvent maintenant en plein milieu des manifestants. Juste à une vingtaine de mètres de moi. Il y a une panique et je pense que les forces de l'ordre chargent. Voilà. Tout le monde court et j'essaye de me plaquer contre le mur autant que je peux, une bombe soufflante. L'attaque devient vraiment très très violente, alors là, on peut parler de guerre de rue. Je n'ai jamais vu ça au Vietnam, je n'ai jamais vu ça en Algérie, c'est quelque chose d'absolument inouï. Actuellement, le carrefour de la Sorbonne est vraiment le théâtre d'un lieu de combat et de guerre. Il n'y a pas d'autre moyen, les ambulances ne peuvent plus passer, les gars tiennent maintenant la barricade, ça se rapproche de plus en plus, nous sommes maintenant à quelques mètres des forces de l'ordre qui attaquent avec des grenades soufflantes et à fragmentation. Et je vois une jeune fille de 17 ans qui est juste devant moi, debout sur la barricade, sans rien, sans casque. Maintenant, c'est la panique, c'est vraiment la panique sur la place de la Sorbonne, c'est quelque chose d'inouï et je dois me plaquer toujours contre le mur et franchement, ça, la situation devient extrêmement dangereuse. Les gens passent par-dessus la barricade, les forces de l'ordre n'arrivent pas, les forces de l'ordre n'arrivent pas, en plein, juste à côté de moi, les grenades éclatent et un garçon s'effondre, c'est quelque chose d'absolument, ce n'est plus, c'est une insurrection absolue. À la soufflante maintenant, je ne sais pas comment on pourra tenir longtemps là, je me trouve juste derrière la barricade, je ne sais pas comment je pourrais. Les nuages de chlore arrivent maintenant et vraiment, il est très très difficile de parler au micro. Hein. La cloche de la Sorbonne, il est 14h20 dans la nuit, au son du CRSSS. Proteste contre l'encerclement du quartier de la Sorbonne. Merci.
Il est 6h35 dans la cour de la Sorbonne et vous pouvez entendre les grenades explosives, les grenades offensives qui explosent encore maintenant, alors que certains postes périphériques annoncent la fin des combats au quartier latin. Actuellement encore charge rue de la Sorbonne. Les manifestants refluent dans la cour de la Sorbonne. Et vous voyez, vous pouvez entendre que là, les combats ne sont pas terminés du tout. Le quartier est encerclé par de très importantes forces de police qui se sont renforcées encore vers 4h du matin. Également, dans l'infirmerie, ce qui a causé un grand nombre de blessés, 5 à ce que m'a dit le médecin de l'infirmerie.
Il y a un mec qui est touché là-bas.
Il y a un type touché à l'entrée. Oh non, mais ça devient de la boucherie, hein.
Au type qui se balade sur les toits en ce moment, ce que je peux vous dire, c'est que si une grenade tombe là où vous êtes, vous risquez de faire sauter pas mal de choses. Alors évitez de vous y promener.
Après une violente attaque à la grenade offensive rue de la Sorbonne, rue Saint-Jacques, et même dans les cours intérieures et sur les étages, premier étage en particulier de la rue Saint-Jacques et de la rue de la Sorbonne, la sonorisation de la Sorbonne diffuse un chant révolutionnaire.
Le 16 juin.
Il est 21h15 et un pompier actuellement monte le long de la rampe de la Croix et est actuellement 2 mètres du drapeau rouge de la Sorbonne. C'est littéralement... Et il l'a arraché, il est exactement 21h16. Quelques cris dans la foule, les forces de police étant très importantes, pas actuellement de réaction. À vous.